Et d'habitude, il s'occupe des jardins du château de Versailles, mais parce qu'il est très sympa, il va aussi vous prêter sa main verte pour rendre vos gazons plus verts et vos roses plus éclatantes. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour, très heureux de vous retrouver.
Mais moi aussi même, sans,
oui,
sans liaison à propos.
Ce n'est pas moi qui vous critiquerai pour les mauvaises liaisons.
Absolument, vous serez tous les samedis et dimanches matin avec nous à cette heure-ci pour répondre aux questions des auditeurs. On commence par celle de Claudine. Elle nous écrit, les anciens propriétaires de son logement donc ont souvent taillé un tilleul et je trouve les moignons qui restent hideux. Je me demandais si je pourrais épargner ça à l'arbre et seulement retirer ce qui a poussé au pied et sur le tronc.
Alors... Oui, c'est cette taille très régulière sur les arbres, on appelle ça en tête de chat. Effectivement, c'est pas très beau. J'en profite pour rappeler que la taille d'une plante est toujours, pour un arbre, un traumatisme et qu'il faut bien entendu éviter. Alors, le problème, c'est pas de tailler régulièrement un arbre. Vous avez quantité de végétaux sur la Côte d'Azur, dans le sud-ouest. On les a même taillés, c'est un peu pour orner la terrasse, faire de l'ombre tout l'été, c'est bien légitime d'ailleurs. Et on va donc les maintenir tous les ans. Et puis de temps en temps, on les lâche, c'est-à-dire qu'on les laisse repartir. Et on revient sur la taille. Non, on taille ou on ne taille pas. Dans le cas précis, si on a un tilleul qui était taillé pendant de très longues années avec ses moignons hideux, et je le conçois tout à fait, si on décide de laisser repartir le végétal, alors on le fait vraiment, on ne reviendra pas sur la taille dans quelques années, ce serait dramatique pour lui. Mais il faudra l'accompagner, parce qu'il va produire des branches mortes, il va avoir des branches mal disposées. L'arbre a été quelque peu traumatisé, déboussolé, donc oui, c'est possible, il faudra l'accompagner et en profiter également pour couper tout ce qui pousse sur le tronc ou à la base. Ce sont des rejets qui sont nuisibles à la plante, qui puisent de son énergie et qui ne servent pas vraiment à la décoration.
Jean, ensuite, lui, il a un balcon orienté à l'est et il aimerait beaucoup faire pousser une plante grimpante, dans l'idée une glycine ou un chèvrefeuille. Est-ce possible? Quel pot choisir, Alain?
Il faut surtout bien écouter la question à l'est. Quel est le problème des balcons exposés à l'est? Vous allez comprendre aisément. La nuit, il fait froid et le soleil se lève à l'est. Ce qui veut dire que le matin, les premiers rayons du soleil arrivent et vont chauffer votre balcon d'une manière très puissante, choc thermique. Car c'est le choc thermique, c'est le chaud vers le froid. L'inverse est également très mauvais pour la plante. Alors choisir des plantes qui supportent le froid sans aucun problème. Ma petite préférence pour les plantes grimpantes, c'est bien sûr la vigne vierge. J'adore les vignes vierges pour leur teinte à l'automne. Et pourquoi pas le houblon doré. C'est joli le houblon.
Le houblon doré, c'est pour faire de la bière ça?
Oui, n'en rêvez pas non plus. À moins que votre balcon, peut-être est-ce le cas, à une surface incroyable.
Pas vraiment.
Mais c'est très joli, ça a des fleurs très décoratives. Pourquoi pas non plus le hortensia grimpant. Là que je vous parle d'hortensia grimpant, vous êtes peut-être en train de vous dire, hortensia grimpant,
oui.
Ce type est devenu fou. Si, l'hortensia grimpant existe bien. Alors, c'est pas avec les grosses fleurs, rassurez-vous. Et pourquoi pas non plus la clématite, mais pas n'importe laquelle, la préécoque. Elle a des petites fleurs violettes rouges, vraiment merveilleuses. Donc oui, il existe quantité de plantes qui peuvent convenir. Et quand on a peur de se tromper, le lierre, avec lui, on est sûr de ne pas se tromper.
Un joli lierre. Mathilde, elle vous pose cette question, Alain. Mon eucalyptus a presque un an, je l'ai rempoté en novembre dernier, mais il ne pousse pas très vite et toutes ses feuilles semblent brûlées. Pourtant, je ne le mets jamais en plein soleil. Comment le traiter?
Réponse de logique. L'eucalyptus est un arbre qui vit dans les régions chaudes. Donc déjà, la plante aime le soleil. En France, là où les eucalyptus sont les plus beaux, c'est sur la Côte d'Azur et la Corse. Donc ce sont des plantes qui aiment le soleil. Ce sont des arbres également. Et s'ils atteignent des hauteurs vertigineuses, car l'arbre les plus hauts du monde ne sont pas les séquoias, mais les eucalyptus, eh bien, faut le savoir.
Ah ouais, j'aurais dit séquoia, effectivement.
Eh bien oui, l'arbre le plus grand du monde a été coupé malheureusement dans les années 1900. Il atteignait 120 mètres de hauteur. Ce sont donc des plantes qui cherchent le soleil. Et une plante qui cherche le soleil a donc besoin de soleil. Là, on est à l'ombre. On est à l'intérieur. L'eucalyptus est un arbre. Ce n'est pas une plante d'intérieur. On peut le cultiver en bonsaï si on a quelques notions de jardinier. Mais donc, il a besoin de soleil. C'est une erreur que de le placer à l'ombre, voire même à la mi-ombre.
Georges, lui, il a semé du basilic dans un pot, posé devant une fenêtre, et il attaque sa cinquième année, ce basilic. Pour une annuelle, ça me semble pour le moins étrange. Qu'en pensez-vous?
Une annuelle, c'est une plante qui est qualifiée ainsi quand elle naît par semis au printemps et qu'elle meurt à l'arrivée du gel en automne. Le bégonia, celui qu'il y a dans les parterres de fleurs, est une plante annuelle. Les quantités de végétaux sont cultivées en annuel. Les roses d'Inde sont des annuelles, etc., etc. Elles sont annuelles parce que nous avons, nous, des automnes et des hivers froids.
Ah oui.
Mais quand vous allez dans les pays chauds, il n'y a pas de saison, du moins il n'y a pas d'automne, il n'y a pas de chute des feuilles. La nature reste verte toute l'année. Or, le basilic est une plante originaire originaire d'Asie et d'Afrique, de pays chauds. Le basilic est donc une plante cultivée en annuel sous nos climats, mais qui en fait est une plante vivace dans ces pays d'origine.
Et il peut vivre combien de temps le basilic ? Années et des années ?
Un certain nombre d'années, oui. Ça peut être 3, ça peut être 4 ans, ça peut être 10 ans. Il y a de temps en temps des plantes étonnantes. Je vais en profiter pour rappeler un record de vie sur Terre. C'est le hou de Tasmanie. Le hou de Tasmanie, c'est un arbuste qui produit des rejets. Il y a un exemplaire en Australie qui vit ainsi depuis 40 000 ans.
40 000 ans, impressionnant.
Et je n'ai pas bu, je vous le garantis,
vraiment,
du moins pas 40 000, cette heure-ci.
Bravo. Allez. La question de Céline. J'ai un chèvrefeuille dans un grand pot sur mon balcon. Ne pouvant le rempoter dans un pot plus grand, puis-je couper des racines pour lui faire de la place et changer la terre ? Si oui, à quelle saison ? On peut couper les racines ?
Oui, on peut le faire, mais attention, un peu comme pour le tilleul, quand on parle de raboter les branches. On peut le faire, mais de manière intelligente. Je vous rappelle qu'il y a deux sortes de racines. La racine, que vous connaissez bien sûr, et qui permet à la plante de se maintenir dans la terre, et puis ce qu'on appelle les radicelles ou le chevelu, ce sont ces toutes petites racines souvent invisibles qui permettent à la plante de puiser l'eau. Donc vous voyez, une racine, deux fonctions. Et les racines dites chevelues sont à l'extrémité des premières racines que j'ai évoquées. Donc on le fera, mais de manière à garder le chevelu, à faire donc tous les ans, mais oui c'est possible, on prend le pot, on l'extrait à l'automne ou au printemps, mais certainement pas maintenant, et certainement pas avant la floraison, on l'extrait du pot, on réduit la terre, on réduit les racines, on le remet dans le pot. Il y a donc de l'espace qui a été créé. Vous imaginez la situation. Vous remettez avec un bon terreau bien neuf et plein d'énergie, et la plante ainsi peut continuer à sa croissance extérieure, car les racines continuent de se développer.
Dernière question, Alain, celle de Nadine. Mon jardin n'a pas été entretenu pendant des années. De la mousse a recouvert quasiment l'ensemble. Faut-il retirer cette mousse ou protège-t-elle le sol ?
Il faut surtout se demander pourquoi il y a de la mousse.
Oui,
moi,
pourquoi ?
Je vais vous répondre. Parce qu'il y a un manque de soleil et trop d'humidité. Donc, si on veut planter, il faudra retirer la mousse et se demander que faire maintenant pour lui éviter de revenir. Et ça, c'est un autre problème.
En quelques mots, vous avez un livre à nous conseiller avant de se quitter.
Un joli livre pour les amateurs de jardin. Et c'est un jardin qui intéresse surtout ceux du Sud, pour un jardin sans arrosage, d'Olivier Philippi. Notre homme connaît le sujet. C'est un ouvrage conséquent, important, publié chez Actes Sud. Vraiment intéressant à lire. Dans le Nord, il pleut tous les jours, c'est catastrophique. Mais dans le Sud, ce livre peut avoir un grand intérêt. Olivier Philippi, pour un jardin sans arrosage, publié chez Actes Sud.
Merci beaucoup Alain Baraton pour tous ces conseils. Bon. Je vous dis à demain.
À demain.